accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous. Avant de revenir sur la crise en Catalogne, une autre échéance politique beaucoup plus sereine à la fin de cette semaine, les élections législatives en Autriche. C'est le jeune espoir des conservateurs, Sébastien Kurz, qui a de grandes chances de devenir chancelier. Le candidat a fait campagne sur la promesse d'un vrai changement, plutôt surprenant pour un parti qui est au gouvernement depuis 30 ans. À Vienne, Céline Béal a suivi l'un des meetings électoraux de Sébastien Kurz.
5000 personnes avaient fait le déplacement ce jour-là dans la plus grande salle de spectacle d'Autriche, la Stadthalle viennoise. Un grand show son et lumière avec pour point d'orgue le discours du jeune candidat à la chancellerie, Sébastien Kurz.
Chers amis, il y a une raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui dans cette salle. Nous tous, nous croyons qu'un vrai changement est possible dans ce pays. Nous croyons qu'un nouveau style est possible, qu'il y a une nouvelle voie pour l'Autriche et que cela va offrir de nouvelles chances. Et, chers amis, le 15 octobre, la voilà, la chance pour un vrai changement dans notre pays.
Un vrai changement, voilà la promesse de Sébastien Kurz à ses compatriotes. Le parti ÖVP siège certes au gouvernement fédéral autrichien sans interruption depuis 30 ans, mais la personnalité de son nouveau leader fait espérer, dans les gradins de la Stadthalle, un renouveau politique.
Nous apprécions sa jeunesse et son activisme politique. Il veut rompre avec ce vieux système.
Mais qu'est-ce qu'il a de si nouveau ?
Il plaît aux jeunes et il comprend les problèmes des gens et aussi ceux de l'Europe et de notre avenir.
Sonia et Jutta ne votaient pas pour l'ÖVP avant sa reprise par Sébastien Kurz en mai dernier. Selon les deux quinquagénaires viennoises, il est le seul qui puisse enfin apporter des réponses aux problèmes actuels de leur pays. Elles ont des attentes claires.
Résoudre la question de l'intégration des immigrés pour l'Autriche et pour toute l'Europe avec une solution qui convienne aux pays chrétiens et à la population. Nous voulons surtout des changements économiques. L'Autriche est encore un pays où la plupart des personnes sont des employés. Mais les jeunes, en particulier, sont de plus en plus souvent confrontés au statut d'auto-entrepreneur. Ils ont besoin de nouvelles structures. S'il y en a un qui peut les créer, eh bien c'est bien lui.
Sébastien Kurz a su inspirer confiance et montrer qu'il était le candidat idéal. Il a imposé les conditions de sa victoire, à commencer par sa liste d'ouverture. Parmi ses soutiens, des personnalités venues d'horizons différents et qui ne sont pas forcément encartées à l'ÖVP, comme par exemple Evgeny Dönmez. Le numéro 5 sur la liste était sénateur, mais pour le Parti Vert. Dans son domaine de compétences, l'immigration, il explique que la liste Kurz ne se caractérise pas seulement par son style, mais aussi par des contenus inédits.
En la matière, nous prenons des chemins complètement nouveaux. On n'a jamais rien vu de comparable. Nous exigeons clairement l'arrêt de l'immigration illégale. Nous devons décider nous-mêmes de qui a le droit de venir chez nous, pas les passeurs. D'où cette proposition, celui qui arrive en Autriche par des voies illégales perd son droit d'asile.
En plus de l'immigration choisie, le programme de l'ÖVP prévoit aussi des minima sociaux plus bas pour les réfugiés que pour ceux versés aux Autrichiens. L'interdiction pour les étrangers de bénéficier du système social les 5 premières années de leur présence dans le pays, y compris pour les ressortissants de l'Union européenne. Tous verraient aussi leurs allocations familiales baisser au cas où leurs enfants seraient restés dans leur pays d'origine. En faisant du thème de l'immigration le cheval de bataille de sa campagne, le Parti conservateur rencontre un succès inespéré qui devrait, si l'on en croit les sondages actuels, lui assurer la première place. Au lendemain du 15 octobre, débuteront les négociations pour la formation d'un gouvernement de coalition. Fort de ses positions radicales sur l'immigration, Sébastien Kurz pourrait bien décider de s'associer au parti d'extrême droite FPE. Après 10 ans de partage du pouvoir avec les sociodémocrates, ce serait, là aussi, un vrai changement.
Les estrelles s'embadalit, però també entenc que jo si fos...
Ce sont des heures critiques que sont en train de vivre les Catalans et l'ensemble des Espagnols. Alors que le président séparatiste envisage toujours de déclarer l'indépendance de sa région ce mardi, ses opposants l'exhortent à faire machine arrière, car tout peut basculer dans les prochaines heures, en Catalogne mais aussi en Espagne. C'est la conviction de Barbara Loyer, directrice de l'Institut français de géopolitique, qui en 2016 a coécrit un ouvrage au titre prémonitoire « Espagne en crise ». Elle répond à Frédéric Lebel.
C'est en effet un moment extrêmement inquiétant, la situation est dangereuse. La Catalogne est déstabilisée, ça peut provoquer des affrontements entre citoyens à l'intérieur de la Catalogne, ça peut provoquer une déstabilisation de l'Espagne tout entière, notamment par le biais d'un contre-coup au Pays Basque, puisque les nationalistes basques sont dans l'attente de voir dans quel sens le vent tourne. Ça peut avoir des conséquences aussi sur Valence, qui est une communauté autonome ou également bilingue, qui fait partie dans les représentations des nationalistes catalans des pays catalans, puisqu'en fait l'indépendance catalane c'est une revendication qui peut ensuite se poursuivre sur les pays catalans. Les pays catalans, ça comprend non seulement Valence mais aussi les Baléares mais aussi les Pyrénées-Orientales. Donc en fait on sait quand ça commence mais on ne sait pas où ça se termine.
Face à une déclaration unilatérale d'indépendance, quelle peut être la réponse de Madrid ?
Au plan légal, si vous voulez, il existe un article dans la Constitution espagnole qui est l'article 155 que le gouvernement peut activer, et cet article prévoit que le gouvernement central demande à la Generalitat, donc au gouvernement autonome, de cesser son activité, ses actions qui mettent en danger l'unité de l'Espagne. Si le gouvernement autonome ne répond pas, alors avec la majorité absolue du Sénat, le gouvernement espagnol est en droit de suspendre l'autonomie, ce qui supposerait aussi d'arrêter les factieux, les personnes qui sont en rébellion, donc d'arrêter Puigdemont et peut-être Junqueras et un certain nombre de personnes, ce qui serait particulièrement délicat, puisque j'imagine qu'ils vont prévoir la chose et physiquement se mettre à l'abri derrière une foule de gens en colère. Ça n'aura peut-être pas lieu. Les opinions ne sont pas toutes concordantes. Il y a une partie de la bourgeoisie catalane qui commence à s'inquiéter. Si vous voulez, le régionalisme catalan s'est créé sur des bases économiques ou à la fin du 19e siècle. Et donc, généralement, la bourgeoisie catalane veille non seulement à ses intérêts, mais au fait que la Catalogne est une région riche et doit le rester. Donc, si tout ça prend des proportions catastrophiques, rien n'indique qu'il n'y aura pas à l'intérieur du nationalisme des mouvements, des changements, et notamment une bourgeoisie qui refuserait d'être menée par un groupe d'activistes qui sont anti-système et d'extrême-gauche, anti-capitaliste, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes de la situation.
Aujourd'hui, on voit bien que la situation est complètement bloquée. Comment en est-on arrivé là ? On a l'impression qu'on a laissé passer une chance qui était en 2006, ce statut d'autonomie qui finalement a été dénoncé 4 ans plus tard par la Cour constitutionnelle espagnole. Pourquoi on n'a pas réussi à cette époque-là à discuter vraiment d'une réforme ?
Ben, la situation est absurde puisque ça a été voté au Parlement catalan, ça a été voté au Parlement à Madrid, ça a été soumis à référendum et 4 ans après, il y a eu une sentence du tribunal constitutionnel de 500 pages, très compliquée, qui invalide 14 des 223 articles.
Et qui est vécue comme une véritable trahison, humiliation par les Catalans.
Alors, elle est interprétée par les autorités régionales catalanes comme un abus de pouvoir, parce que ce que rejette le tribunal constitutionnel espagnol, les articles en question, par exemple le fait que la Catalogne est une nation, ou que la langue catalane sera préférentielle, ou que les tribunaux catalans n'auront plus aucun compte à rendre avec les tribunaux espagnols, donc que ces articles qui sont transcendantaux transforment de fait le système, l'ordre juridique, l'ordre constitutionnel espagnol. C'est la raison pour laquelle c'est rejeté. Mais c'est absurde que ce soit rejeté 3 ans et demi après. Il y a eu une interprétation comme un abus de pouvoir. Et c'est le début d'une véritable stratégie séparatiste par un noyau plus étroit, en fait, de séparatistes qui parviennent à diffuser à partir de là, dans une partie beaucoup plus large de la population, l'idée que la Catalogne doit se séparer.
On dit quand même que l'indépendantisme vient de la base de la société citoyenne par le biais de l'ANC et qu'elle se diffuse ensuite dans les partis politiques. Ce ne sont pas les partis politiques qui imposent en fait ce discours indépendantiste aux citoyens catalans.
Si vous voulez, aujourd'hui, dans tous les pays d'Europe, le niveau monte. Alors, la base, ce sont des cabinets d'avocats, des juges, des officiers de police, des profs d'université. Et dans les partis politiques, il y a des avocats, des profs d'université. Voilà. Donc, si vous voulez, la dimension parti-base, je ne sais pas si elle décrit véritablement la situation. Disons que vous avez une partie de la société qui n'est pas à la manœuvre dans les partis politiques, qui s'est emparé d'un projet, qui est un projet d'élargissement à une partie beaucoup plus large de la société, de l'enthousiasme pour un grand soir indépendantiste.
Est-ce qu'il est légitime, ce procès qui est fait à Madrid, de dire « vous nous brimez, vous êtes un État hyper centralisateur, voire parfois on entend fasciste ?»
Alors le problème, c'est qu'on n'entend pas parfois fasciste, on entend fasciste partout, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat, en fait, on est au niveau de l'invective. L'Espagne est une démocratie, c'est un des États les plus décentralisés d'Europe. On en est arrivé là parce que c'est une démocratie, ce sont des gouvernements nationalistes qui sont à la manœuvre dans un certain nombre de régions depuis longtemps, qui ont eu tout pouvoir sur l'école primaire et parfois secondaire, qui ont des compétences extrêmement larges en matière linguistique, financière, fiscale, qui voudrait en avoir plus peut-être, mais c'est parce que c'est un État démocratique qu'on a pu aussi en arriver là.
Et on a pu en arriver là aussi peut-être parce qu'en fait, en Espagne, il y a un espèce de tabou. On n'ose pas dire qu'on est patriote, on n'ose pas glorifier d'une certaine manière une Espagne unie parce que ça rappelle peut-être trop le franquisme.
Je pense en effet qu'il y a une forme de retenue, si ce n'est de tabou ou bien d'ennui, je ne sais pas très bien comment faudrait le qualifier, il faudrait peut-être des sociologues pour le faire, vis-à-vis de la thématique nationale en Espagne. Il y a très peu d'Espagnols qui parlent de la nation. On ne voyait pas de drapeau espagnol en Catalogne, alors que des drapeaux catalans, il y en a partout. J'ai vu, moi, dans l'évolution des programmes du Parti populaire, apparaître le mot nation, mais en général associé à la question de l'immigration étrangère, pas tellement des territoires. Donc on est vraiment dans un État qui s'imaginait qu'on était passé au-delà des questions d'affrontement entre nationalismes. Et je pense que pour beaucoup d'Espagnols aujourd'hui, ce que font les séparatistes catalans est vécu comme une trahison, surtout qu'ils viennent de se libérer du terrorisme de l'ETA.
Barbara Loyer, auteure avec Nassima Baron, d'Espagne en crise aux éditions Armand Collin. Il y a un an, en Pologne, les mobilisations monstres des femmes faisaient reculer le gouvernement conservateur qui voulait interdire complètement l'avortement. En cet automne 2017, les Polonaises sont de nouveau dans la rue, réveillées par les velléités des autorités et de l'Église de restreindre leurs droits. Elles veulent désormais beaucoup plus. Un collectif de jeunes femmes se mobilise pour libéraliser l'IVG. Maya Szymanowska est allée rencontrer ces jeunes femmes lors de la marche pour leurs droits.
La pluie qui tombe sur Varsovie ce lundi-là n'a pas empêché des dizaines de jeunes de se réunir sur une place du centre-ville appelée Patelnia, la Poêle. C'est le lieu de passage de milliers d'habitants qui sortent du métro pour prendre le train ou le bus. Un nœud de communication idéal pour récolter des signatures en bas d'un projet citoyen en faveur de l'accès à l'avortement, toujours très difficile dans la très catholique Pologne. Martina Strój est étudiante en médecine.
Ce projet de loi a pour objectif de libéraliser l'avortement, mais aussi de réguler la question de la clause de conscience. On voudrait que la liste des médecins qui refusent de pratiquer l'IVG soit accessible aux patientes avant la consultation et rendue publique. Nous voulons aussi le remboursement de la contraception, de la pilule du lendemain sans ordonnance, de l'éducation sexuelle adaptée à l'âge des enfants, et aussi l'interdiction d'afficher des pancartes avec des images sanglantes de fœtus aux abords des écoles ou des hôpitaux.
Cette campagne orchestrée par le collectif à la Toime Kobiete sauvant les femmes a démarré durant l'été et a déjà récolté plus de 100 000 signatures. Suffisamment pour déposer un projet de loi, mais les jeunes filles veulent en récolter beaucoup plus. Elles se sentent les premières concernées, comme ces trois copines lycéennes de 17 ans pour lesquelles c'est le premier engagement. Basia, Nina et Maya se sont habillées en noir. C'est la couleur qui a été choisie par les Polonaises pour représenter leur mobilisation. la couleur du deuil. Disons-le, les jeunes comme nous ont l'âge de commencer leur vie sexuelle. L'accès à la contraception est très important pour nous, entre autres la pilule du lendemain. Cette contraception de la dernière chance est utilisée surtout par les femmes jeunes avant 30 ans. Nous sommes les premières concernées.
Accessible sans ordonnance par le passé, durant quelques années, cette pilule du lendemain doit de nouveau être prescrite par un médecin depuis avril dernier. Ces trois copines voient dans leur vie de tous les jours les retombées de la propagande nationaliste et conservatrice du gouvernement.
Nous sommes jeunes, nous voulons parler au nom d'une partie de la jeunesse, car malheureusement notre génération est très divisée. La moitié, bon, peut-être un peu moins, se radicalise. Beaucoup de jeunes rejoignent les rangs des nationalistes et marchent sous leurs étendards. Nous voulons montrer qu'il y a une autre jeunesse avec des opinions beaucoup plus libérales.
Autour de la petite table improvisée, des gens se pressent. Bacha et Nina sont beaucoup plus jeunes que tous les signataires. Elles ne sont pas majeures. Elles-mêmes ne peuvent pas signer la pétition qui leur tient tant à cœur, mais peuvent récolter les signatures.
Ceux qui signent le plus, ce sont les gens âgés. D'un côté, c'est très émouvant que des personnes qui ne sont plus concernées par cette loi s'engagent pour nous. Mais ce qui est triste, c'est qu'il y a peu de gens de notre âge.
Malgré la montée des extrémismes, malgré un gouvernement qui fait la sourde oreille aux revendications citoyennes, ces jeunes gardent l'espoir.
Nous n'abandonnons pas, nous luttons tout simplement pour nos idéaux et nos valeurs. Nous voulons une meilleure situation pour les femmes en Pologne. Nous gardons l'espoir. Tout peut être changé. Surtout que dans 2 ans, il y aura les prochaines élections. Nous avons aujourd'hui 17 ans, mais dans 2 ans, nous pourrons voter et élire un parti qui défendra nos droits.
Les nouvelles signatures en poche, les jeunes rejoignent le cortège des manifestants qui célèbrent le premier anniversaire du Black Protest, la protestation noire, qui l'année dernière a fait reculer le gouvernement conservateur qui voulait interdire complètement l'avortement. La démocratie est une femme, la solidarité est une femme, crient les jeunes en chœur. Ils sont quelques dizaines de milliers à manifester à Varsovie, comme dans presque toutes les villes de Pologne. Beaucoup moins que l'année dernière, s'empresse de préciser les médias publics à la botte du gouvernement. Mais peut-être assez pour montrer que les femmes en Pologne ne désarment pas et ne comptent pas se laisser faire.
En Europe, les eaux usées des particuliers finissent encore trop souvent dans la nature sans être vraiment traitées. Pourtant, une directive européenne a fixé en 2000 des lois très strictes en matière d'assainissement. Bruxelles vient ainsi de lancer une procédure d'infraction à l'égard de la Lituanie qui a encore beaucoup de progrès à faire en matière de tout à l'égout, Marielle Vitureau.
Une pompe à eau à l'extérieur de la maison et une petite guérite en bois déglinguée au fond de la cour qui fait office de toilette. Si cette scène est caractéristique de la campagne lituanienne, on l'observe aussi dans le centre de Vilnius. Plusieurs dizaines de personnes vivent encore sans eau courante ni tout à l'égout, à 2 pas du quartier de la mairie et des banques installées dans de grandes tours de verre. Le phénomène ne touche pas que les vieux quartiers du centre-ville. La capitale lituanienne gagne chaque année quelques milliers d'habitants et beaucoup de personnes se sont installées au nord de la ville et des quartiers entiers de maisons individuelles sont sortis de terre à un rythme effréné, bien plus rapidement que les infrastructures. Ces nouveaux habitants ont donc installé sur leur terrain leur propre système d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Désormais, plus d'un quart de la population lituanienne rejette ses eaux noires à la rue, et ce même dans les grandes villes. Or, selon les directives européennes, la Lituanie doit assurer à l'ensemble des habitants d'une localité de plus de 2000 personnes d'être reliés au tout à l'égout. À la campagne, la situation est un peu différente. Le coût des travaux pour être raccordé au tout à l'égout est tout simplement trop élevé pour une population en difficulté économique et habituée à vivre ainsi. Pour l'instant, la Lituanie fait preuve de bonne volonté. Elle s'est engagée à ce qu'en 2019, le problème soit entièrement résolu. Dans le même temps, les autorités menacent les contrevenants d'amendes. Un vœu pieux, car pour l'instant, le montant de ces amendes n'a pas encore été fixé.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition d'Accent d'Europe. À demain.